Dimanche, ça sera la grande finale du côté de la Coupe du Monde. La Croatie va affronter la France. Aujourd'hui, il n'y a pas de soccer du côté de la Russie. Arcadio Marcuzzi est avec nous. Salut, Arcadio.
Salut, Jérémy.
Arcadio, aujourd'hui, on va profiter d'un moment mort au niveau de la Coupe du Monde pour se faire une carte postale, pour savoir un peu à quoi ressemble cette Coupe du Monde en Russie. Puis en fait, c'est répondre à la question, suivez Arcadio pendant une journée à la Coupe du Monde, que fait-il? Arcadio Marcuzzi, peux-tu nous décrire une journée typique dans ta ruée du côté de la Coupe du Monde?
Oui, tout à fait. Mais en fait, il y a deux types de journées. Il y a la journée où il n'y a pas de match et il y a la journée où il y a un match. Donc, les journées où il n'y a pas de match, c'est certain que je travaille quand même. Évidemment, je fais environ 3 ou 4 interventions à la radio par jour. J'ai 2 chroniques au journal Métro à produire. Donc, souvent, je suis en mode écriture. Quand j'ai un peu de temps, évidemment, j'en profite pour visiter la ville où je me trouve, faire un petit peu de tourisme, me reposer aussi, des petites siestes par-ci, par-là pour rattraper un peu le sommeil perdu. Ça ressemble pas mal à ça, une journée où il n'y a pas de match. En fait, une journée où je ne vais pas au stade, faudrait dire. Parce que sinon, évidemment, il y a des matchs pas mal tout le temps. Et je m'arrange tout le temps aussi pour regarder ce qui se passe du côté des autres matchs à la télé. Une journée où je vais au stade, où je suis, disons, accrédité pour un match, ça se passe différemment. Je fais toujours mes interventions radio. J'essaie d'arriver le plus tôt possible au stade pour prendre le temps de bien visiter les installations, de bien me familiariser avec l'endroit. Je fais évidemment mon intervention sur les ondes de RDS dans l'avant-match, le show d'avant-match en direct du centre de presse. Après ça, bon, je vais m'installer, je trouve mon siège et évidemment après ça, ben c'est le beat radio qui recommence avec les interventions. Parfois pendant, en début de match, au milieu, après. Donc, disons, le fait que ce soit 7 heures plus tard ici en Russie, ça rend les choses, disons, beaucoup plus occupées en fin de soirée pour moi. Donc, vraiment, des journées où on ne s'ennuie pas du tout, des journées bien remplies depuis le mois et quelques jours que je suis ici en Russie.
Arcadio, dis-moi donc, une journée où il y a un match où tu te diriges dans un stade, ça débute à quelle heure ta journée et ça se termine à quelle heure?
Les matchs en phase de groupe, il y en avait parfois qui étaient autour de 5 heures, donc j'essayais d'arriver le plus tôt possible au stade, autour, je te dirais, de peut-être 1 heure, 2 heures de l'après-midi. Sinon, en phase de groupe, dans les phases éliminatoires ou en demi-finale, les matchs étaient à 9 heures. Puis bon, pour les demi-finales, je t'en avais parlé, là, j'ai fait énormément de voyagements en temps de 24 heures. J'étais à Moscou le matin, j'étais arrivé de Nijni Novgorod à Moscou. Je suis reparti la nuit vers Saint-Pétersbourg où avait lieu la première demi-finale. J'ai vu ce match-là, le match France-Belgique à Saint-Pétersbourg. Après le match, tout de suite, j'ai couru à la station de train prendre mon train vers Moscou à minuit et demi pour rentrer à Moscou pour être là mercredi soir pour l'autre demi-finale Angleterre-Croatie, la demi-finale d'hier soir. Donc ça a été, disons, le moment le plus intense de mon voyage, là, justement, en termes de voyagement, en termes le fait d'avoir 2 matchs coup sur coup en 24 heures, c'était la première fois aussi que je le vivais. Ça change le beat, change énormément. Faut dire que le beat, par exemple, en phase de groupe où il y avait 4 matchs par jour à suivre, ça devenait très intense. Donc, c'est tombé un petit peu plus relax lors des 8e, mais ça a repris de plus belle en demi. Donc, vraiment, des changements de rythme, c'est comme un marathon. Des changements de rythme, tu y vas un petit peu avec le flow, tu essaies de suivre. Et l'important, c'est de bien gérer le rythme pour arriver sain et sauf au fil d'arrivée.
Arcadio, dis-moi, raconte-moi Moscou. J'ai jamais mis les pieds à Moscou. Et on a vu cette ville-là dans tellement de films à travers l'histoire. Raconte-moi Moscou pour toi, ça ressemble à quoi?
Ouais, Moscou, j'ai eu la chance de la visiter un petit peu lorsque je suis arrivé là il y a un mois, les premiers jours de mon voyage, mais j'ai pas eu le temps de la visiter tant que ça encore. C'est quelque chose que je vais faire au cours des prochains jours, mais de ce que j'ai pu voir là, Moscou, c'est premièrement une ville énorme, une ville où la culture est omniprésente, où l'histoire est omniprésente, c'est riche, l'architecture elle est magnifique, il y a des inspirations de différents courants architecturaux, de différents courants historiques. C'est vraiment un régal pour les yeux, pour tous les sens. Les Moscovites, c'est des gens extrêmement accueillants aussi, extrêmement chaleureux. J'ai eu l'occasion de jaser avec des gens de la place, puis vraiment, c'est une belle découverte que non seulement la Russie, mais les Russes aussi, ça fait partie intégrante de cette expérience, bien évidemment. Donc, j'ai très hâte d'ailleurs, dans les prochains jours, d'aller visiter justement les autres, disons, monuments ou les autres endroits, là, les mosques que j'ai pas encore pu voir, mais j'ai eu la chance, bon, d'aller à la Place Rouge, évidemment, des places comme ça qui sont mythiques et juste ces expériences-là. Ça vaut le prix du billet, si on veut.
Arcadio, dis-moi, est-ce que la Place Rouge est aussi imposante qu'on peut se l'imaginer?
Oh, davantage, parce qu'on a évidemment la cathédrale Saint-Basile comme point de référence, qui est évidemment ce building, pour les gens peut-être qui ne le voient pas, qui est le fameux building Tetris, là. Ouais. Tout ce qui est autour, l'immense place, le Kremlin, c'est vraiment très imposant. Ça nous donne une bonne mesure de la grandeur de tout ce qui a pu être la Russie, bon, l'ancienne URSS, au niveau, à l'échelle mondiale et au niveau historique. Donc, c'est vraiment incroyable de s'y trouver, de pouvoir s'imbiber de toute cette histoire, de vraiment toute cette magie qu'on a ici dans cette ville de Moscou.
Arcadio, dis-moi, la météo, ça ressemble à quoi là-bas? C'est chaud, c'est humide, c'est quoi?
C'est frais, je te dirais, ça dépend des villes aussi, parce que bon, j'ai eu la chance de me promener là dans quatre villes juste ici, des distances quand même assez importantes, donc ça change pas mal. À Moscou, en ce moment, il fait autour de 25 degrés là, autour de la journée. Dans la journée, ça se vit très bien, c'est pas trop humide, c'est très agréable. À Saint-Pétersbourg, c'était plus frais. On était toujours autour de entre 15 et 20 degrés, donc il y a toujours un petit manteau, un petit chandail là, en soirée, surtout c'était assez venteux. Il pleuvait un petit peu aussi. Saint-Pétersbourg, d'ailleurs, qui est une autre ville incroyable au niveau culturel, historique, là. Aussi, c'est un must quand on vient en Russie. Sinon, à Nizhny, une autre ville où il ventait énormément, Nizhny, ça se situe à l'angle de la rivière Volga et de la rivière Oka. Donc, beaucoup de vent de ce côté-là, mais une autre ville absolument magnifique, plus petite évidemment, mais une ville tout à fait enchanteresse qu'il faut découvrir. Et puis voilà, ça varie pas mal, mais c'est je te dirais, c'est doux. En allant vers le chaud un peu, là, surtout ici à Moscou.
Arcadio, est-ce que tu étais en mesure d'apprendre quelques mots en russe?
Oui, la base. J'avais fait un petit cours, d'ailleurs, sur une app, sur mon téléphone intelligent avant de partir, juste pour bon avoir une base. Mais il faut dire qu'ici, la plupart des gens avec qui j'ai eu affaire se débrouillent en anglais, donc ça rend le tout beaucoup plus facile, mais c'est certain que j'essaie le plus possible, du moins dans l'approche, dans les bonjours, les merci, de leur parler leur langue, évidemment, de montrer un intérêt, une ouverture envers la culture d'ici. C'est toujours le fun aussi d'apprendre quelques notions d'une nouvelle langue, surtout une langue aussi différente. On est dépaysé de ce qu'on voit, surtout avec l'alphabet cyrillique là, qui est tout à fait différent du nôtre. Ça, c'est une autre chose que je suis en train de maîtriser tranquillement. Je reconnais les lettres. Maintenant, je suis capable de lire un peu les signes, puis reconnaître les noms, par exemple, des stations de métro et tout ça en cyrillique. Donc, je m'en viens pas pire de ce côté-là. C'est un bel apprentissage.
Parlons maintenant de la sécurité. On sait, une Coupe du monde, c'est un événement planétaire et on est en Russie. On doit s'assurer que tout le monde est en sécurité. Est-ce que les mesures sont imposantes?
Oui, extrêmement imposante. Parfois, c'est dans le quotidien, là, surtout quand on travaille, tout ça, ça peut devenir un peu dérangeant, en ce sens que quand on rentre dans le métro, on passe notre sac au détecteur de métal, un petit peu comme à l'aéroport. Dans les stades, des mesures semblables aussi à celles qu'on peut voir dans un aéroport. pour aller dans les fan zones, c'est sensiblement la même chose. Il y a donc parfois quand tu es pressé un petit peu tout ça, ça peut devenir fatigant, mais en même temps, on comprend et c'est un mal pour un bien parce qu'on se sent extrêmement en sécurité, on l'est, je crois. C'est la même chose quand on pense à la présence policière et militaire parfois dans les rues ou autour des stades quand il y a des matchs, tout ça. C'est vraiment imposant. Il y a des dispositifs assez spectaculaires. On n'a pas lésiné de ce côté-là, du côté du comité organisateur. Je pense qu'aussi les standards de la FIFA sont extrêmement élevés là, à ce niveau-là. Et la Russie ne fait pas exception. Donc, vraiment, comme je dis, parfois ça peut être un peu encombrant, mais en même temps, dans le contexte actuel, on comprend la nécessité de le faire et on se sent très en sécurité. C'est très bien.
Arcadio, les plus beaux stades, le plus beau stade que tu as visité?
C'est particulier. J'en parlais aujourd'hui justement avec un internaute là, sur Instagram. Puis j'ai eu la chance de visiter 5 stades jusqu'ici. C'est sûr que Loujniki, c'est le grand stade de Moscou parce qu'il y en a 2 à Moscou. Il y a Loujniki et le Spartak. Loujniki, c'est là où va avoir lieu la finale dimanche. C'est extrêmement imposant, c'est 78 000 places. Il est magnifique, ce stade, l'extérieur. C'est un stade qui date, évidemment, de l'ancienne URSS. Donc, vraiment, une architecture très particulière, une immense statue de Lénine devant le stade. Donc, ça rappelle, il y a toujours un memento historique là, qui nous fait un clin d'œil au passé. Mais l'intérieur est rénové à grandeur, d'une modernité incroyable, d'un confort tout à fait exemplaire. Le Spartak Stadium de Moscou, par exemple, il est plus petit, 45 000 places, et c'est celui que j'ai le plus apprécié en termes d'expérience soccer, parce que c'est évidemment c'est plus petit. C'est un stade un petit peu au style le stade de la Premier League anglaise, donc avec une belle sonorité, une belle intimité, malgré que bon, 45 000 places, c'est quand même imposant. Mais peu importe t'es où, tu vois très bien le stade, t'es près de l'action. Donc de ce côté-là, je pense que ça a été mon expérience préférée. Sinon, celui de Saint-Pétersbourg aussi, j'ai beaucoup aimé le Zenit Arena, là où on joue le Zenit de Saint-Pétersbourg. C'est énorme. C'est 60 000 places. C'est un stade qui m'a beaucoup fait penser au Stade olympique de Montréal. C'est un stade dont l'architecture est un peu ovniesque. Là. Ça ressemble un peu à un gros ovni. Il y a un toit ouvrant et l'intérieur est c'est une espèce de grand bol, un peu comme le stade. Donc, c'est un stade qui m'a fait penser qu'on pourrait peut-être s'en inspirer éventuellement si jamais on décidait de rénover le Stade olympique en vue, par exemple, d'une Coupe du monde en 2026 ou un événement comme ça. Ça pourrait être une espèce de point de départ ou du moins une certaine inspiration là, d'aller chercher. Donc, Saint-Pétersbourg aussi, un superbe stade. Sinon, tous les autres que j'ai pu voir, celui à Nijni Novgorod, magnifique, qui se trouve exactement à l'embranchement de la rivière Volga et la rivière Oka. C'est un grand bol aussi tout rond avec bon des rappels évidemment des vagues bleues. C'est superbe comme stade. Et celui de Kazan aussi, très moderne. J'ai pas eu le temps de le voir, celui-là, beaucoup, parce que je suis arrivé à Kazan en train à quelques heures, à 2 heures seulement avant le sifflet initial. Alors de la gare jusqu'au stade, ça a été la grande course. Et malheureusement, j'ai pas pu le voir de façon plus attentive, mais il était magnifique aussi, extrêmement moderne, très bien rénové. Donc, au niveau des infrastructures ici, là, c'est le grand luxe, honnêtement, ça a été très bien rénové. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une culture footballistique ici, il y a des clubs, et la majorité des stades, ils vont servir a posteriori, ce ne sera pas des éléphants blancs. Et ça, ben, dans le contexte actuel, c'est toujours une bonne nouvelle.
Arcadio, parle-moi des souvenirs, parce que là, on doit vendre à peu près, j'imagine, 48 000 façons de ramener un peu la Coupe du monde chez toi. Quel genre de souvenirs on est en mesure de se procurer et à quel prix? Est-ce que c'est abordable?
Oui, en fait, j'ai pas eu le temps, parce qu'il faut que je magasine des souvenirs, mais j'ai gardé ça pour la fin, évidemment, pour pas, vu que je voyage beaucoup, je voulais pas m'encombrer de trop de poids là dans mes bagages, tout ça. Mais j'ai vu beaucoup de évidemment les peluches de la mascotte de la Russie, le petit loup Zabi Vaka, qui est très beau. Il y a évidemment toutes les effigies, les items à l'effigie des équipes, beaucoup de thèmes un peu traditionnels russes, comme des poupées russes aux couleurs des autres équipes, des trucs comme ça. Donc, vraiment, il y a du choix, là. Il y a de l'embarras du choix. Il y a certaines personnes qui se plaignaient, par exemple, de ce que j'ai pu lire là sur Internet, du manque de variété, du manque des prix, évidemment, très élevés de ce côté-là. Donc, j'ai très hâte d'aller investiguer, moi, de mon côté, voir qu'est-ce qu'il y en est, parce que c'est ça, j'ai dans les derniers jours avant de partir, après la finale, évidemment, là, la journée d'après, je vais aller faire mon petit tour de shopping, ça, c'est certain.
Arcadio, voilà pour une journée bien remplie, malgré le fait qu'il n'y a pas de match de soccer aujourd'hui. Arcadio, on se donne rendez-vous dès demain pour mettre la table pour cette grande finale de dimanche entre la Croatie et la France. Arcadio Marcuzzi, merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, merci Jérémy.